Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la conférence des Nations Unies sur les océans, conférence organisée au siège de l'ONU à New York du 5 au 9 juin prochain. Une conférence qui a pour ambition de soutenir la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14, qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Depuis de longues années, l'universitaire, artiste et activiste français Yann Thomas poursuit sur plusieurs fronts une série d'initiatives impliquant notamment l'ONU et le développement durable. Il a ainsi participé à plusieurs grandes réunions internationales, dont la 22e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, organisée à Marrakech au Maroc en novembre dernier. Une conférence qui a permis d'enfoncer le clou et d'accélérer la lutte mondiale contre le changement climatique. Yann Thomas qui mobilise d'ores et déjà toute son énergie pour la prochaine conférence sur les océans.
Marrakech nous l'a bien montré, maintenant nous sommes dans une politique d'actes, il faut absolument avoir du concret et donc pour inverser la tendance. Le 1.5 degrees, c'est l'objectif. On voit bien qu'on a du mal à tendre vers les 2 degrés pour l'instant, donc il va falloir vraiment se dépasser. Et pour cela, il faut mettre en œuvre des protocoles nouveaux artistiques de mon côté, et puis des protocoles nouveaux au niveau mathématique et statistique du côté de personnalités comme Antoine Mondal. Et donc pour cela, on rencontre aujourd'hui, dans le cadre de notre déplacement, des personnalités qui peuvent aussi alimenter ces programmes qui sont dotés, qui sont aussi mis en œuvre avec de nombreuses personnalités et des spécialistes, mais qui deviennent concrets uniquement s'il y a un levier politique et un levier financier qui arrive à mettre en œuvre le mouvement. Donc pour cela, il y aura le Ocean Day qui aura lieu le 8 juin prochain. Et donc là, dans le cadre de Ocean Day, je vais réaliser une œuvre aux côtés d'Antoine Mondal et également de Dave Schroeder, qui dirige le département de jazz de NYU et qui est jazzman. Et donc, avec des harmonicas, nous allons mobiliser toutes les personnalités qui seront en présence pour le Ocean Day et les amener à rentrer en résonance avec les animaux marins. Donc, tout le monde sera groupé devant l'East River et nous allons pratiquer ensemble l'harmonica pendant un peu moins de 10 minutes et rentrer dans une résonance, une sorte d'harmonique harmonica et mettre un lien symbolique en mouvement collectivement vers les animaux marins, en particulier les baleines.
Yann Thomas qui n'en revient toujours pas de voir comment ces projets artistiques sont aussi bien accueillis, notamment par le grand public.
Alors écoutez, ce qui est assez formidable, c'est que ça mobilise très rapidement les gens. Les gens comprennent immédiatement, en général, où vont mes protocoles artistiques, que ce soit pour Dynamo Fukushima au Grand Palais, hein, où 24 000 personnes se sont réunies sur 3 jours, ou que ce soit pour Human Energy, où 80 millions de personnes ont été connectées à l'œuvre, ou que ce soit là encore récemment à Pékin, avec 42 000 personnes réunies. Les gens se réunissent spontanément, parce que c'est la jubilation, c'est la rencontre des corps aussi, par un acte collectif, la danse, le chant, avec Youth Energy Water. J'ai fait chanter des milliers d'enfants devant l'eau à Marrakech, parce que le chant peut aussi influer sur l'eau. Alors il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, notamment des Japonais, mais j'essaye d'utiliser tout ce qui peut finalement symboliquement mobiliser. L'idée, ce n'est pas d'aboutir à une effectivité de résultats, comme on nous y oblige normalement dans les protocoles scientifiques, mais c'est d'aboutir à un pas en avant ou un pas de côté. Que les gens qui ont des fonctions précises dans ce monde se rendent compte qu'ils ont également des forces en sommeil et que ces forces en sommeil, elles peuvent être déclenchées par simplement ce pas de côté ou ce désir qui naît par la proposition qu'est l'art. Voilà, donc c'est ça qui m'anime. Et je pense que ce rôle-là, je me dois de le tenir, coûte que coûte. Peu importe ce que ça m'en coûte d'ailleurs, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie et de focalisation sur ce genre de protocoles. Ils ne sont pas forcément ce qu'on attend dans une galerie d'art, par exemple. Les galeristes, ils veulent vendre des œuvres, vous voyez. Moi, en fait, ce que je mobilise, les objets que je propose, ce sont des objets qui sont immatériels. Donc, c'est tout ce qui va se partager entre les personnes. Après, il va falloir un certain investissement. Et là, on trouve des donateurs qui vont permettre, comme pour la COP21, de finaliser le dispositif et d'avoir une signalétique, une logistique et une faisabilité avec aussi des éléments de sécurité pour pouvoir faire fonctionner le dispositif et puis le matériel. Donc, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui devient facilitée par l'engagement des gens et leur investissement spontané.
Un activisme, un volontarisme que partage un autre universitaire, Antoine Mandel, spécialisé dans un tout autre domaine, a priori inattendu, les mathématiques appliquées.
Les mathématiques sont avant tout un langage qui peut être parfois difficile à apprendre, mais qui, comme tous les langages d'ailleurs, ouvre des portes extraordinaires. Donc là, on n'a pas de porte tellement vers la littérature ou la poésie, mais on a une porte vers une compréhension du réel, plus profonde peut-être. Moi, j'utilise ce langage principalement pour essayer de comprendre les liens entre la dynamique de nos sociétés, la dynamique des phénomènes socio-économiques et celle de notre environnement. Aussi bien comment les changements environnementaux peuvent influencer l'évolution de nos sociétés et comment nous avons aussi parfois un impact négatif, mais parfois aussi positif, sur notre environnement. Et donc les mathématiques permettent de formaliser les interactions entre ces deux phénomènes que nous, on va, en tant que scientifiques, essayer de capturer en construisant des modèles et qui nous permettent de mettre en avant ou de prévoir dans une certaine mesure ou d'explorer les possibles pour l'avenir de ce qu'on pourrait appeler les systèmes socio-environnementaux. Alors, ce qu'on essaye de faire, peut-être d'une certaine manière avec Yann Thomas, c'est dire que ce n'est pas irrémédiable, en tout cas dans la compréhension du réel qui nous entoure, et que aussi bien ces observations du monde que nous essayons de traduire en équations, on peut aussi les communiquer par l'art. Et donc, dans ce projet Green Wave, on vise à mobiliser des éclaireurs verts qui vont, d'une certaine manière, pour nous explorer la ville, donc du point de vue scientifique, collecter des données, mais aussi, de par la concentration de cette information et de cette énergie par le biais d'une installation artistique, vont aussi porter un message et expliciter d'une autre manière, dans une autre dimension de la connaissance ou de la communication, les enjeux, en l'occurrence dans la ville et dans la transformation urbaine, dans quelle mesure on peut penser la transformation urbaine et identifier des zones de transformation urbaine dans un objectif positif pour l'environnement, c'est-à-dire de faire des villes plus durables, plus vertes, plus soutenables. Et donc, on est là dans l'action humaine qui est bénéfique pour l'environnement. Et donc, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, d'engager les gens à y participer et de mieux comprendre et de faire comprendre à chacun, ou idéalement, via le biais de l'art.
Antoine Mandel qui assume pleinement et persiste dans sa démarche, justifiant par là même son parcours professionnel.
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'essayer de comprendre au départ le fonctionnement des sociétés. Et peut-être par le biais de mon esprit, plus tourné vers la formalisation des choses plutôt que le côté sensitif et émotionnel. Pour moi, c'était une démarche afin d'appréhender les choses. J'ai jamais conçu les mathématiques tellement comme une fin en soi, ce qui peut être tout à fait respectable. Mais pour moi, ça a toujours été un outil pour comprendre le monde. Alors, je me suis d'abord beaucoup intéressé aux phénomènes socio-économiques en tant que tel. Et puis, de fil en aiguille, si vous voulez, je veux dire, c'est quand même, en tant que citoyen, le changement climatique notamment. Et à ce point central, quand on essaye de se projeter dans l'avenir à moyen ou à long terme, à 20 ans, à 30 ans, à réfléchir quels sont les possibles, eh ben, on se trouve à devoir prendre ce phénomène en considération dans la façon dont on essaye de se projeter dans l'avenir. Alors, penser à l'évolution des sociétés aujourd'hui, c'est notamment, pas uniquement, mais c'est notamment penser au changement climatique. Et alors, moi, je me suis retrouvé assez naturellement dans cette démarche. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a identifié ce défi, en fait, que nous pose le changement climatique, on ne peut, en tant que citoyen, on ne peut que être motivé, pas par la peur, mais par le fait qu'il y a ce challenge collectif à surmonter. Et l'idée de pouvoir y apporter une contribution, si petite soit-elle, est très, très gratifiante. Donc, moi, je me suis en effet lancé à plein dans cette thématique et je suis ravi d'être aujourd'hui aux Nations Unies où l'on voit que cette perspective de voir finalement le défi du changement climatique comme une opportunité et en train de s'épanouir.
Pour résumer, nous avons donc deux universitaires, l'un qui enseigne les arts, l'autre les mathématiques, tous deux engagés, mobilisés dans des projets originaux d'appui au développement durable, ce qui pousse certains observateurs à des commentaires sceptiques, voire ironiques. La réponse de Yann Thomas.
Il faut absolument croire en ses rêves. Et si la folie fait partie de protocoles qui peuvent aboutir à des résultats, je veux bien adhérer à cette folie. Et je crois qu'il faut que le rêve soit partagé. Donc, c'est vrai que dans le cadre de mon laboratoire, qui est CNRS, donc qui est art, diplomatie, innovation, l'idée de dynamiser l'innovation passe par la diplomatie et passe par un rapport à l'autre qui, pour aller dans le sens de Édouard Glissant, nous pousse à une poétique de la relation. Donc, moi, je suis pour la sublimation de la poétique de la relation et un lien haptique, finalement, fondé sur nos forces intérieures pour dynamiser la globalité du monde et notamment les forces qui sont en présence en chacun de nous. Parce que c'est une question de déclenchement et donc d'être un élément déclencheur de cela. Et je pense que l'art est international. C'est une sorte d'espéranto. Et cet espéranto, il faut que nous en usions aujourd'hui, car il est très urgent que la situation s'accélère.
Une approche dans laquelle se retrouve bien aussi le mathématicien Antoine Mandel, qui rappelle l'incessante quête de progrès qui a jalonné l'histoire de l'humanité.
Bon, c'est un message qui passe avec les étudiants, c'est un message qui est passé aujourd'hui par les Nations Unies, et j'étais vraiment très content de l'entendre ici. Pourquoi ? Parce que c'est en surmontant des défis que l'humanité a progressé tout au long de son histoire. Et donc, chacun se reconnaît dans cette mythologie de l'effort, de la combativité, de la quête personnelle ou collective face à des dangers, des défis. Donc, ça fait écho, je pense, à tout ce que dans l'imaginaire collectif, on associe au progrès finalement, qui est non pas un paradis statique ou figé, mais un accomplissement. Et le fait de se retrouver face à un défi global aujourd'hui, c'est caractéristique de l'époque en quelque sorte, et ça nous oblige à repenser globalement nos sociétés. Bien sûr, un défi comporte toujours des risques. Et est-ce qu'on peut avoir des regrets sur les 150 dernières années ? Bien sûr, mais je pense qu'on est dans toujours dans un mouvement de progrès. Et alors, si de par notre mode de développement, on a causé ces perturbations du système climatique, ce n'est pas une fatalité. C'est ce message qu'on peut surpasser encore ce défi et finalement dans le sens positif de l'histoire, si je puis dire.
Laissons le mot de la fin à Yann Thomas qui définit d'ores et déjà les critères à réunir pour que les initiatives prises durant la conférence des Nations Unies sur les océans soient couronnées de succès.
Ah bah tout bonnement déjà qu'on parle des océans parce que c'est quand même formidable qu'il y ait ce sommet-là. Heureusement que l'ONU s'en soucie parce que finalement c'est quand même toujours l'enfant pauvre du climat. La Terre est constituée une grande majeure partie d'eau. Les animaux marins sont vraiment atteints par nos activités humaines. Les continents de plastique s'est constitué au milieu de l'Atlantique et du Pacifique. Enfin, il y a des courants marins qui se dérégulent. Une traversée, vous pouvez même voir maintenant dans les régates, on a vu le Vendée Globe par exemple récemment, il n'y a pas une régate qui se passe sans plusieurs avaries dues aux obstacles qui sont rencontrés en mer. Donc, contrairement à l'époque, il y a même 10 ans, où on ne rencontrait pas un seul objet flottant pendant plusieurs jours, aujourd'hui, c'est impossible de les éviter. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a une accélération aussi de cette pollution de la mer, des océans, et qui indirectement court et fait disparaître des espèces entières d'animaux marins. C'est absolument dramatique. Donc, je pense que cette Ocean Day est fondamentale et j'entends m'y impliquer pleinement.
Pour être complet, à noter que la conférence des Nations Unies sur les océans devrait adopter par consensus le 9 juin une déclaration sous forme d'appel à l'action, mais aussi une liste des engagements volontaires pour la mise en œuvre de l'objectif 14 annoncé lors de la conférence. Ainsi se referme Escale, donc un magazine d'ONU Info, présenté et réalisé cette semaine par Jérôme Longuet avec l'aide d'Anthony Policicchio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Vous pouvez également nous retrouver sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.